Et nous allons en Seine-Saint-Denis voir comment se porte la culture en période de confinement.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les gens sont très très attachés à leur théâtre.
Dès que je vais pouvoir le faire, je vais revenir. Pour moi, c'est vital.
On a besoin de culture, point barre.
Le plus grand virus, là, c'est la méconnaissance.
Pour lire, pour apprendre à lire, ouais, c'est important.
Qu'est-ce qui va nous rester, là, bientôt? On va nous empêcher de sourire.
Fermés pour cause de Covid, les petits commerces, les restaurants, les salles de sport sont à l'arrêt. Et depuis les restrictions sanitaires entrées en vigueur le 29 octobre à minuit, la culture est à nouveau confinée, elle aussi. Pour les cinémas, librairies, salles de concert, théâtres, dont les activités ne sont pas qualifiées d'essentielles, rideau. Quelle place reste-t-il à la culture en temps de pandémie? Et la crise sanitaire, révélatrice des inégalités sociales, risque-t-elle d'approfondir aussi les inégalités culturelles? Astin, banlieue populaire de la petite couronne parisienne, le chômage touche 22% de la population. Dans cette ville de près de 40 000 habitants, les acteurs culturels se démènent pour maintenir un lien étroit entre une population dite défavorisée et le théâtre, la musique, la lecture. Astin, la culture résiste au Covid, c'est un reportage signé Anne Lamotte. Dans Grand Reportage, nous accueillons cette semaine la sociologue Marie-Hélène Baquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'études urbaines à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et l'an dernier, avec le photographe André Merian, vous avez raconté les transformations de la banlieue parisienne dans Retour à Roissy, un livre paru aux éditions du Seuil. Je vous ferai réagir tout à l'heure au reportage d'Anne Lamotte. Vous nous emmenez en Seine-Saint-Denis, Anne, plus particulièrement à Astin, qui est une ville singulière en termes d'offres culturelles.
En effet, ce qui m'a guidée là-bas à Astin, c'est que la culture en temps normal, Aurélie, elle y est hyper vivante et qu'il y a tout un travail culturel qui est fait avec les habitants, notamment au studio théâtre où on va aller dans un instant. Ils sont pas les seuls à le faire, hein. Mais dès qu'ils le peuvent, ils ne créent pas pour les habitants, mais avec les habitants de Astin qui amènent leurs idées et ensemble, ils fabriquent des spectacles. Après le premier confinement, par exemple, ils ont travaillé en atelier en partant notamment de Huit Clos de Sartre ou d'exercices de style de Raymond Queneau. Et le résultat, eh bien, ça a été des scénettes. Et puis, ça a dérivé sur de la danse, sur du son, sur de la vidéo. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller à Astin aujourd'hui, en temps de second confinement, pour voir dans quel état de santé, en fait, était ce lien vital, pour certains, vous allez l'entendre, entre la culture et la population. Que reste-t-il de ce lien à Astin?
Nous partons tout de suite à Astin.
Nous sommes dans le centre de Astin. Dans les rues, bordées de petits immeubles, c'est calme. Le café de la mairie, les restaurants, où le salon de coiffure sont fermés, les rares Stanois que l'on croise, masqués. Tout semble au repos.
Je vais essayer de trouver l'entrée.
Comme au studio théâtre de la ville, ce grand bâtiment moderne et arrondi que l'on repère de loin.
En fait, il y a un grillage devant l'entrée principale.
Mais ne vous fiez pas aux apparences. Car derrière les grilles de l'entrée, dans l'ombre, sur la scène du studio théâtre de Astin, le STS, on répète une adaptation des Confessions de Jean-Jacques Rousseau.
Autonome, redit autonome.
Quand il raconte son enfance.
L'injustice, quoi, il est révolté par cette injustice. Mais elle est mauvaise, cette loi, pour celle qui n'a rien, pour la cigale qui n'a rien.
Pourquoi ce choix ?
Que ce soit plus convaincu.
Parce que Rousseau est un transfuge de classe, rappelle Marjorie Nakache, directrice artistique du STS et metteuse en scène.
Ouais.
Parce qu'aussi, le nom de Jean-Jacques Rousseau, se souvient-elle, était régulièrement cité dans les manifestations de Gilets jaunes, en lien donc avec la réalité. Et que le postulat de l'auteur, l'homme naît naturellement bon, c'est la société qui le corrompt, peut faire réfléchir, faire débat.
Et on peut être pour comme on peut être contre, en tout cas on peut en discuter. Et je pense qu'on peut en discuter d'autant plus quand on est sur un territoire comme celui-ci. Je veux dire, la propriété privée, qu'est-ce que c'est? La solidarité, la souveraineté populaire, c'est des choses qui ont une grande résonance en banlieue, enfin, partout, bien entendu, mais ici encore plus. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, c'est que ce petit garçon, cet enfant, et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur l'enfance, plein de jeunes d'ici peuvent complètement s'identifier ou en tout cas se poser la question « et moi ?» quoi. Et moi, c'est toujours ça qui m'intéresse parce que à chaque fois qu'on fait des représentations en scolaire, qu'on travaille beaucoup avec les scolaires, il y a toujours une discussion après, il y a toujours un échange et il y a toujours un débat, et un débat démocratique. Un débat pour faire avancer et débattre là-dessus, c'est accumuler de la connaissance, c'est créer un esprit critique et c'est devenir un citoyen.
Ainsi,
l'utilité publique.
Ah oui, tendant toujours à l'utilité publique.
Ce spectacle, intitulé Rousseau et Jean-Jacques, devait être présenté à partir de la fin du mois à Stains. Les habitants qui se seraient précipités, Marjorie Nakache en est certaine, en seront privés jusqu'au 1er décembre, au moins.
Merci.
Privés aussi de leurs cours. 40 ans normal, le studio théâtre, toujours ouvert, accueille artistes en résidence et pas moins de 24 ateliers par semaine. Près de 500 élèves de tout âge, tout milieu, tout horizon, en éloquence, rhétorique, improvisation, danse ou trapèze. Le tout à un prix accessible, 180 euros par an pour les Stanois. Et pour ceux qui ne peuvent pas, on s'arrange, nous confitons. Le but, la scène, avec tous, dans cet endroit qui ne ressemble pas à un théâtre ordinaire. C'est une ancienne baraque foraine, devenue un cinéma, le Central, de fait en plein centre-ville, ce qui a tout de suite plu à Marjorie Nakache, qui s'efforce depuis un peu plus de 30 ans de transformer ce lieu en maison, dit-elle, la sienne et celle des habitants.
L'idée, c'est que n'importe qui puisse y rentrer, même si on ne parle pas la langue, même si on n'en a pas les moyens, même si on pense qu'on est un teubé parce qu'on est en banlieue. Même si on pense tout ça, non. Que ça soit pas une frontière infranchissable, un théâtre, la porte d'un théâtre.
Pas une frontière non plus pour le garçon qui se met à graffer un jour sur la porte d'entrée du théâtre. On l'a surpris en flagrant délit, raconte Marjorie. On lui a proposé d'entrer. C'est resté notre régisseur pendant plus de 20 ans. Le résultat, résume-t-elle, c'est le théâtre dans une ville et une ville dans le théâtre. Et sa fierté, ce sont les soirs de spectacle, où l'on peut voir, dans la salle, assis côte à côte, sur les mêmes sièges en velours rouge, et à la même table, ou au même bar, après la représentation, des personnes qui ne se seraient, a priori, jamais croisées.
Moi, je vais beaucoup, beaucoup au théâtre. C'est toujours la même catégorie de population, c'est toujours la même couleur, c'est toujours le même milieu socio-professionnel. C'est très, très rare, hein. Moi, quand vous comptez le nombre de Noirs ou le nombre d'Arabes qu'il y a dans une salle de spectacle à la Comédie-Française, il y en a très peu. Et c'est vrai qu'ici, c'est pas la même chose.
Dès que je vais pouvoir le faire, je vais revenir. Pour moi, c'est vital. C'est devenu vital.
Fazia Oulmi est ici comme chez elle. Elle est élue à la culture et à la jeunesse à la mairie de Stains. Et élève au studio théâtre depuis une dizaine d'années. Faire de la scène son rêve d'enfant, trouver un studio théâtre comme celui de Stains, une chance, dit-elle.
Si vous avez la possibilité de venir un jour où il y a une représentation ici, vous allez voir le public. C'est intergénérationnel, ça va du petit de 8 ans à la grand-mère de 80 ans qui arrive avec ses béquilles ou sa canne, mais c'est formidable.
C'était formidable, mais ça le redeviendra, lance Marjorie Nakache, infatigable, pas de répit.
Non, et là tu te lèves. Et tout d'un coup, c'est pour ça qu'il y a la loi des hommes, et là c'est le philosophe qui part.
Elle continue de travailler en sous-marin, en coulisses.
Monsieur,
et elle le promet, ce spectacle sera présenté un jour ou l'autre. Pour elle, les habitants de Stains le méritent. Ces habitants qui, confinement ou pas, viennent toujours frapper à la porte de l'établissement. Et confinement ou pas, Kamel Warty, le directeur administratif, descend régulièrement de son bureau.
Quand ça sonne, je descends. Quand ça sonne, j'ouvre la porte. Même pour dire à la personne, tu viendras demain, vous viendrez me rencontrer demain. Mais je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, c'est fermé à double tour. Je réponds à toutes les sollicitations. Je fais ou je ne fais pas. Quand je dis je parle de nous, moi. Mais je donne une réponse.
Et ça sonne, d'après lui, à la porte, mais aussi au téléphone, qu'il ne cesse, dit-il, de décrocher. Il confirme.
Les gens sont très, très attachés à leur théâtre.
Et ajoute que depuis la rentrée, c'est la ruée.
Mais j'ai jamais eu autant de demandes. Depuis septembre, je suis obligé de refuser.
Des gens qui veulent venir ici étudier ou en résidence.
Ou en résidence, ou des gens qui veulent des spectateurs lambda, ou des lycéens qui veulent... Et des mamans qui me disent, inscrivez notre enfant, mais il n'a pas l'âge. S'il vous plaît, prenez-le, il a 5 ans. J'attendrai l'année prochaine. S'il vous plaît, prenez-le. Et d'habitude, j'en ai un, là, il en a 3. Il y a une demande inouïe de sortir du quartier, de sortir des appartements, de se dire, on va à la rencontre de l'autre. Et ce lieu-ci a toujours été un lieu, comment dirais-je, construit dans ce sens. Le fait est qu'ils disent maintien des services publics. Moi, j'ai toujours considéré qu'on en était un. Et je ne vois pas pourquoi nous, on est fermés. Mais moi, je connais beaucoup de territoires, beaucoup de pays qui aimeraient avoir des studios théâtre de Stains.
Qui n'offrent pas seulement de monter sur scène. Quand les élèves, les spectateurs et les autres seront de retour ici, ils pourront aussi, pourquoi pas, de nouveau se plonger dans les livres du studio théâtre.
Autant Paul Valéry, il est par là. Je dois voir Camus derrière, là-bas.
Ces dizaines de bouquins, Modiano, Maupassant, Dickens ou Rabelais, empilés dans le hall, à la disposition des gens de passage.
Il y en a qui les ouvrent, il y en a qui les prennent. Vous avez des familles qui, pendant que les enfants travaillent ou sont formés, restent là le samedi matin ou le samedi après-midi. Ils boivent des cafés, ils consultent les livres, ils les échangent, ils les replacent. De temps en temps, on refait un réassort. J'ai même tout un plein de cartons de bouquins en anglais. Mais on a un peu de tout. Hein. Et même nos Pléiades, on les met là.
Ah oui ?
Bah oui. C'est un peu doré à leur fin. Rappelez, je me dis un jour, on est en galère, on les vendra. Mais quel intérêt d'avoir les Pléiades dans la bibliothèque s'ils ne s'ouvrent pas ?
D'habitude, Astin, c'est aussi à l'hypermarché de la ville.
Vous êtes arrivé. Votre destination est sur votre droite.
À quelques kilomètres de là, que l'on trouve des livres. Au premier étage. Voilà le rayon, protégé par de hautes barrières, caché même sous une grande bâche bleue de chantier.
Alors on va regarder.
Ah oui. Ah oui.
Il y a pas mal de choses.
Il y a pas mal de choses là.
Oui, il y a pas mal de choses. Il y a quand même les moyens de lire, mais bon.
Une multitude d'ouvrages que l'on ne peut pas toucher.
C'est absolument aberrant. Alors, pourquoi les cafetières ne sont pas fermées et pourquoi ça s'est fermé?
C'est vrai que les cafetières sont juste à côté.
Est-ce que ça va être vraiment un apport pour les petits commerçants qui restent ouverts? D'abord ici, à Astin, on n'a aucun libraire. Si vous
en... En effet,
il n'y a plus de librairie.
Non, pas de librairie à Astin, ni une maison de la presse.
Et on est un peu sinistrés ici.
Et c'est pourtant notamment ici, dans cet hypermarché, que cet habitué, retraité du bâtiment, rencontré là par hasard, se fournit.
Alors j'ai toujours une liste.
Comme une liste de courses.
Vous voyez, regardez, tout ça c'est des livres. Pierre Loti,
Erwan Bergot,
Jean Hougron.
Sylvain Tesson.
Henri Miller. Sylvain Tesson, je les ai pratiquement tous. Le plancher de
Joachim Martin.
Ouais, de Joachim Martin, bon, entre autres. Tout ce qui est voyage, la roue de la soie, tout ça, j'ai pratiquement tout lu. Par exemple, une fois, je suis tombé sur un livre sur les missionnaires en Chine. Bon, je suis pas un pratiquant religieux, non, pas du tout. Mais j'ai lu ce bouquin, c'est extraordinaire. On voit ces gens qui vont vers les autres peuplades, qui vont essayer de les convaincre, qui font des tas de trucs, il leur arrive des tas d'histoires. Ils voyagent dans des palanquins, enfin c'est une passion, quoi, c'est tout. Vous n'avez pas les moyens d'aller en Chine, vous lisez des bouquins sur la route de la soie et tout ça, vous traversez des pays extraordinaires, sans bouger de votre fauteuil, on peut dire. Qu'est-ce qui va nous rester là bientôt? On va nous empêcher de sourire déjà avec ça.
Avec le masque.
Mais je ne sais pas où on va là.
Eh bien, on va à la médiathèque.
Alors, Pôle emploi, complexe sportif, commissariat, cimetière et la médiathèque. Enfin, une des médiathèques.
Il y en a deux, Astin.
Devant moi, la médiathèque Louis Aragon. Bonjour. Ah, vous êtes ouvert ?
L'immense et hyper moderne médiathèque Louis Aragon, 50 000 documents, est donc ouverte. Mais impossible d'y entrer vraiment ou de monter à l'étage. On peut en revanche consulter à l'entrée une sélection de livres, CD, DVD, ou venir chercher ceux que l'on a réservés sur Internet. Le click and collect.
Vous avez une carte ou pas ?
Bonjour.
Les enfants.
Allez, jeune.
Alors, la médiathèque, elle est fermée, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur.
Dont Daouda et ses copains
n'ont
manifestement pas entendu parler.
Et vous avez l'habitude de venir ici ?
Oui.
Pourquoi ?
Pour lire. Pour apprendre à lire. Ouais, c'est important. Il faut apprendre à lire. Si tu ne sais pas lire, il faut que tu apprends
des nouveaux mots.
Il y a des mots, quand ils sont ensemble, on peut... pas comprendre ça fait quoi. Je sais plus c'est quoi la lettre de W.
En tout cas, si vous voulez emprunter, on a fait une petite sélection.
Ce jour-là, le groupe d'enfants finit par repartir les mains vides. Et les chiffres de fréquentation de la médiathèque Louis Aragon sont en chute. Brutale. Pas de statistiques officielles, mais on estime qu'une dizaine de visiteurs seulement passent la porte par heure, contre 2000 environ en temps normal. Mais ici,
on y va quoi.
Comme au studio théâtre, à deux pas, le même engagement. Coller des stickers dans les rues pour informer les habitants, envoyer des newsletters, réactualiser la page Facebook, rester au poste.
On en parlait juste avant que vous arriviez et on se disait tous les deux, à chacun son niveau, qu'on était content d'être là, confiné mais content d'être là.
Et si les Stanois ne viennent pas aux livres, les livres iront aux Stanois, promettons à la médiathèque Louis Aragon, qui pourrait reprendre l'air. Comme pendant le premier confinement, bibliothèque ambulante, se rend les valises chargées de livres dans les PMI, les services de protection maternelle et infantile, les centres sociaux ou les centres de loisirs.
On le fait parce que de toute façon, à un moment donné, ça portera ses fruits.
La démarche de Zaya Ziouani est la même.
Donc normalement sur ma gauche, il y a l'espace Paul-Éluard.
Oui, c'est bien ça. On la rencontre à l'espace Paul-Éluard, installé au rez-de-chaussée même d'un grand immeuble d'habitation, un logement social qui fait partie de la cité Jardin de Stein, construite dès les années 20, une des fiertés de la ville, espace vert, jardinet, pavillon coquet, immeuble en briques, comme celui-ci.
J'ai cru que c'était là. Merci.
On fait les artistes.
C'est ici que Zaya Ziouani, chef d'orchestre, qui se produit partout en France et à l'étranger, a choisi de poser ses valises avec son orchestre symphonique, Divertimento, 70 musiciens.
Nous aussi, on fait partie de la Ligue des Champions, quelque part.
Mais l'équipe ne joue plus. Comme partout ailleurs, finis les concerts classiques à Stein. Les 500 places de l'espace Paul-Éluard, les 140 sièges de l'auditorium Xenakis, juste à côté, restent vides. Et quand on a une date, ils sont pleins, assure Zaya Ziouani. Qui se déplace aussi, elle en a l'habitude, hors les murs. Il n'y a pas une semaine sans qu'on intervienne dans une école, explique-t-elle. Il y a quelques jours encore, une violoncelliste était en primaire, mais pas à Stein, à Clichy-sous-Bois, une autre ville de la Seine-Saint-Denis. Bientôt, c'est promis, Divertimento ira de nouveau à la rencontre des élèves de sa ville.
Aujourd'hui, tous les enfants ont le droit de pouvoir écouter une mélodie belle, jolie, et personne n'y est insensible. Et j'ai jamais rencontré un enfant qui s'est bouché les oreilles en me disant « Zaya, ça m'intéresse pas, je ne veux pas ». Alors, il y en a qui vont apprécier plus que d'autres, il y en a qui vont poursuivre l'aventure en écoutant de la musique après notre venue plus que d'autres. Mais en fait, je trouve qu'on n'a pas le droit de décider à leur place de ce qu'ils ont le droit de découvrir ou pas.
Et dans les écoles, Zaya n'y va pas qu'avec sa baguette, les musiciens pas qu'avec leur instrument sous le bras. Ils apportent aussi avec eux l'histoire de la musique et celle de ses auteurs.
Si je prends l'exemple de certains de nos compositeurs, comme Georges Bizet, comme Camille Saint-Saëns, ou plein d'autres, Georges Bizet, il a écrit un opéra très célèbre, Carmen, voilà, qui s'inspire de la culture espagnole. Camille Saint-Saëns, dans son opéra aussi qui est très célèbre, Samson et Dalila, il s'est inspiré de la culture algérienne. Et aujourd'hui, c'est important parfois où on s'interroge sur c'est quoi être français, sur notre identité ici en France, de se dire qu'on a des œuvres les plus emblématiques de notre histoire, de notre culture, qui ont été inspirées des cultures étrangères à la France.
Dire aussi, par exemple, qu'une fille peut faire de la trompette, un garçon de la harpe. Et rappeler que les femmes ne représentent que 4% des chefs d'orchestre en France et que Zaya Ziouani, d'origine algérienne, qui a grandi à Pantin, dans le même département, fait partie de ces femmes-là. Mais attention, elle fait tout ce travail, elle le précise bien, sans perdre de vue que c'est la culture son domaine, pas le social. Zaya et son orchestre ont beau favoriser la réflexion, la connaissance, leur métier au départ, c'est la musique. Leur mission première, donner accès à cette musique. Plus que le lien social, c'est ce lien culturel qui est actuellement quasiment rompu à Stein. Mais vu de l'extérieur, ça ne va pas être aussi clair, craint la chef d'orchestre.
Parfois, dans les discours, on me dit « Ah mais Zaya, la ville de Stein, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est populaire, qui a des quartiers prioritaires, donc ça relève de la politique de la ville. » Sauf que moi, quand je fais ici un concert avec une symphonie de Beethoven au Théâtre Paul-Éluard de Stein, ou un programme de danse symphonique, le même programme que j'ai fait il y a quelques mois ici, qu'on va donner à la Philharmonie de Paris, eh ben, mes musiciens, ce sont les mêmes musiciens, on est habillés de la même façon, on a les mêmes partitions, et les œuvres, elles restent aussi belles et aussi complexes quand on les joue à Stein qu'à la Philharmonie de Paris. Et du coup, parfois, les projets qu'on fait ici sont assimilés à de la politique de la ville, alors que ce qui se fait dans les grandes salles de concert, c'est de la culture. Et tant qu'on fera cette différence, eh ben, les gens se sentiront différents aussi.
« Je suis ni psy, ni assistante sociale, ajoute Marjorie Nakache au studio théâtre de Stein. Je suis metteuse en scène, même si elle a l'habitude de créer des spectacles avec les habitants de la ville, où l'on compte par ailleurs environ 80 nationalités différentes. Priver les gens de culture dans une banlieue comme la nôtre, soupire-t-elle, va être assimilé à une rupture socio-culturelle, et pas culturelle tout court. Une grosse erreur qui, selon elle, ne date pas du confinement et qui risque de s'aggraver.
Ça, c'est une longue lutte depuis des années et des années et des années. Où en fait, le fait d'être en banlieue, d'être dans le 93, vous êtes systématiquement, si vous n'êtes pas une institution à Centre Dramatique National ou la MC 93 à Bobigny, si vous êtes artiste à Stein, forcément, votre travail, à partir du moment où il se fait avec les gens et il est revendiqué comme tel, il est dans du socio-culturel. Ça, c'est très français. Et c'est quelque chose dont on pâtit depuis des années et contre lequel je me révolte depuis des années. Je veux dire, il n'y a pas de plus grand communautarisme que le communautarisme de notre élite culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dedans et puis d'autres qui doivent être à côté. Et si vous êtes à côté, vous faites du socio-cul, vous ne pouvez pas faire du culturel. C'est pour ça que constamment je me bagarre aussi, parce que très souvent, je suis dans les journaux à la page société et pas à la page culturelle. Et cette différence-là, il n'y a pas que mon ego, parce qu'à travers moi, c'est aussi toute une population, c'est aussi un système de pensée sur une ville. C'est-à-dire qu'on catalogue aussi des gens comme n'étant pas aptes à être des spectateurs, des gens cultivés. Ça veut dire tout le travail des professeurs, qui sont des professeurs aussi qui on va considérer parce qu'ils travaillent en banlieue. Mais de même la police, de même les hôpitaux et de même les gens de culture. C'est-à-dire que ça dépasse largement le cadre du culturel. C'est-à-dire que c'est vraiment un système de pensée qui considère qu'il y a des lieux où c'est, qui sont au banc de la ville, et que tout ce qui est au banc de la ville, en banlieue, tout ce qui est en dehors de Paris, tout ce qui est décentralisé comme ça, même si on en a des grands discours qui prônent et qui prêchent le contraire, dans la réalité, c'est pas vrai. On considère qu'il y a des lieux avec la culture avec un grand C et d'autres où c'est du socio-culturel.
Ainsi, pour Zaya, Marjorie et tous les autres artistes que nous avons rencontrés à Stein, l'accès à la culture, hyper présent en temps normal dans la commune, est en quelque sorte et de manière systémique dévalorisé. Ce qui n'aide pas pour convaincre les personnes les plus réfractaires ou les plus défavorisées. Surtout quand le Covid rôde. À Stein, la clinique de l'Estrée est toujours à flux tendu. Près de 80 hospitalisations. On est loin du pic des 155 lits occupés lors du premier confinement. Mais à Stein, où l'on compte un tout petit peu moins de 40 000 habitants, décrit parfois comme un village, le virus, pour certains, reste une obsession.
C'est normal, c'est le maladie pas...
Comme pour cette dame, normal, qui sortait, dit-elle, avant le Covid.
Avant, oui, mais maintenant, non. Toujours moi, chez moi, je ne sors pas. Si j'achetais un pain ou j'achetais quelque chose... Je vais aller vite fait, je touche même pas, même les murs. Je touche pas parce que j'ai peur. La vérité, la santé, c'est que la santé.
Que la santé en ce moment?
Oui, mieux que l'argent, mieux que le trésor, mieux que tout. La santé, c'est la santé.
Et quand ce n'est pas le virus?
Non, franchement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un boulot.
C'est basculer vers le bas qui peut faire peur. Les Restos du Cœur, restés ouverts à Stein, expliquent être assaillis. Ils servent 5000 repas par semaine. Énorme, nous disent-ils. Pas assez de lait, plus de couches. En 2017, déjà, d'après l'INSEE, 37% des habitants de Stein vivaient sous le seuil de pauvreté. Quant au taux de chômage, il dépasse les 20%. C'est plus de deux fois au-dessus de la moyenne nationale. Et avec le Covid, ça ne risque pas de s'arranger.
Moi, j'ai été licenciée. Fermeture de la société, liquidation... Mais c'est vrai que c'est bizarre, hein, parce que travailler pendant 22 ans et se retrouver... Et je vous dis franchement, on a du mal à trouver là. Les annonces sont frileuses, vous avez au moins 500 ou 700 personnes pour une offre. C'est... Voilà quoi. Après, la culture, j'ai la télé, j'ai les bouquins à la maison, parce que j'ai pas mal de bouquins aussi à la maison. Donc après, j'ai pas besoin de me déplacer dans un lieu pour aller me cultiver. Ça a changé, on est en 2020.
Merci, au revoir.
Voilà la mairie de Stein.
À la rencontre du maire.
Azzedine Taibi, maire de Stein.
Un maire communiste, tradition dans cette banlieue dite de la ceinture rouge. Azzedine Taibbi, dont c'est le deuxième mandat et qui, malgré la crise sanitaire et la crise économique, martèle.
La culture ici à Stain, pour moi, est essentielle.
Il en veut pour preuve le budget de la commune alloué à la culture depuis qu'il occupe son poste, depuis 2014. Il n'a pas baissé, il a même légèrement augmenté, nous dit-il, pour atteindre 10 millions par an. Et Azzedine Taibbi rappelle par exemple l'inauguration il y a moins de 3 ans de la médiathèque Louis Aragon, où nous étions tout à l'heure, ou celle du studio d'enregistrement Nina Simone l'année dernière au cœur de la cité du Clos Saint-Lazare. Parce que la culture, il paraît que ça soigne.
C'est un bon remède, voilà, c'est un très bon remède dans des situations de crise sanitaire et de crise sociale. Ça donne de la force, ça donne un sens collectif.
Et qu'il n'y a pas de paradoxe, d'après lui, à réclamer plus de lits et plus de livres.
Et puis j'estime aussi que la culture dans nos quartiers populaires, c'est un droit et doit être totalement inscrit dans le droit commun, un droit fondamental, tout comme l'éducation, tout comme, je dirais, la santé. On a besoin de culture, point barre.
De la culture pour se protéger contre les maux de la société, comme l'obscurantisme, par exemple, note le maire. En fait, contre les violences toutes confondues, selon lui. Et à Stain, il y a du travail. Bagarre de bande récurrente dans un des lycées de la ville, parfois à coups de barre de fer ou de marteau, règlement de comptes sanglants. La ville, et notamment le Clos Saint-Lazare, n'ont pas été épargnés ces dernières années. Le bureau de poste de la cité n'a pas rouvert depuis l'agression d'un de ses agents en décembre dernier. Et là, forcément, avec le maire de Stain, nous reparlons de la fresque.
Ville de Stain, en Seine-Saint-Denis, au centre de toutes les attentions cet après-midi. Le syndicat de policiers Alliance 93 organise un rassemblement à 16h devant une fresque de la ville.
La fameuse fresque qui a tant fait parler d'elle au mois de juin dernier. On y voit les visages d'Adama Traoré et de George Floyd, surmontés de cette phrase « Contre le racisme et les violences policières », signée du collectif Art, où l'on retrouve notamment Sven, artiste reconnu, un des pionniers du graphe en Seine-Saint-Denis. L'œuvre ne plaît pas du tout au syndicat de police Alliance, ni au ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner. Le ton monte, ça aurait pu dégénérer.
Exactement.
Ça n'a pas été le cas. Azzedine Taibbi y tient.
Je rappelle qu'à Stain, aucun incident n'a eu lieu. Parce que j'estime qu'au travers de cette fresque, donc au travers de cette œuvre artistique, évidemment derrière il y a un message très fort qui est envoyé, mais c'est aussi une manière de dire voilà comment on peut justement exprimer un désaccord, exprimer une opinion sans
colère,
une colère, parce qu'il y a besoin d'exprimer la colère. Et l'art est pour moi, et la culture est pour moi un moyen d'expression, surtout parce qu'elle permet de ne pas passer à l'acte. Quand il n'y a plus de possibilité de s'exprimer au travers de l'art et d'une manière générale au travers de la culture, bah malheureusement, il y a de fortes chances que l'expression se traduise à un moment donné en acte physique, en violence physique. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Moi, je suis aussi un militant profondément attaché à la paix, aux valeurs pacifistes entre les habitants. Et pour moi, ça, c'est essentiel.
La fresque, elle, qui ne souffre pas du confinement, accès direct à la population, juste derrière la mairie.
Donc là, on se trouve dans le centre de Stain, devant la fresque, la nouvelle fresque.
En effet, car l'ancienne œuvre a disparu en septembre dernier au profit d'une autre.
Elle représente Daniel Obono.
Daniel Obono, député de Paris, dépeinte en esclave, fer au cou, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles cet été.
Avec un bonnet phrygien sur la tête, le poing levé. Et le slogan, c'est « La République, c'est aussi nous ». Une fresque bleu, blanc, rouge.
Et cette fresque-là va encore changer, etc. L'idée, c'est en fonction de l'actualité ou en fonction, je dirais, des projets que nous menons sur la ville, c'est de laisser carte blanche aux artistes en disant, voilà, on va travailler sur telle ou telle thématique. Ça peut être les discriminations, ça peut être le racisme, ça peut être la solidarité, ça peut être la question de l'écologie, etc. Donc, c'est... Ce mur permettra des expressions artistiques différentes à chaque fois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, ça dépendra.
C'est le mur de l'agora, quoi.
Exactement.
Azzedine Taibbi n'est pas naïf. Les artistes que nous avons rencontrés à Stain non plus. Ce n'est pas une fresque qui va tout régler. Mais tous nous l'ont dit. Il y a dans cette ville une puissance culturelle qui ne doit pas faiblir. Alors ils entretiennent la flamme et rappellent que la commune est encore un vivier d'artistes. Le photographe Contraste, par exemple, enfant de Stain, a ouvert une galerie, Tâche d'art, en plein centre, juste avant le confinement au mois de mars. Les acteurs Yacine Bellous, Kéron ou Rod Parado, César du meilleur espoir masculin 2016, sont passés par les planches du studio théâtre de Stein.
Bertolt Brecht, voilà. Bon, un des textes qui m'avait marqué, c'est « Grand-peur et misère du Troisième Reich ».
Rojdi Aouès aussi, qui se souvient des livres qu'il a eus entre les mains, des textes qu'il a joués, des spectacles qu'il a vus. Aujourd'hui, il est journaliste à Stein Actu, le journal municipal, et reste en lien étroit avec le milieu culturel de sa ville, qu'il veut voir déconfiné.
J'ai envie de vous dire, ça m'écœure, ça me donne envie de vomir. On parlait tout à l'heure d'auteur, là on est un peu dans une période orwellienne, j'ai envie de dire, George Orwell, 84. Bon, à l'époque, lui, donc, on change les mots, mais là... En fait, alors aujourd'hui, on a le droit de quoi ? On a le droit d'aller travailler, donc de produire encore plus. Mais on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'aller au théâtre. Et du coup, ça questionne, puisqu'en fait, toutes ces choses-là, c'est ce qui permet de mener, d'avoir une réflexion. Est-ce que ça veut dire, je pose la question de manière un peu provocatrice, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de penser, qu'on continue à regarder la télé, des médias, moi personnellement, que je vomis ? Les chaînes d'information continuent aujourd'hui, voilà. Alors, bien sûr, si on passe son temps à regarder ces chaînes-là, on ne peut qu'avoir peur de ce qui se passe dehors, qu'avoir peur de l'autre, ce qui est pour moi juste une aberration, et surtout, c'est d'une tristesse.
Et l'urgence est la même, chez Marjorie Nakache, derrière les grilles de son théâtre. Convaincue, conclut-elle, que l'art est le seul lieu possible de réconciliation.
Parce qu'il n'y a que par le geste artistique, il n'y a que par l'art, il n'y a que par la littérature, le théâtre, la danse, etc. Il n'y a que par ça, que par le médium de l'art, que des gens qui n'ont rien à voir entre eux, que tout oppose, trouvent une langue commune. Il n'y a que par ça qu'on peut y arriver. C'est-à-dire que moi, j'ai compris ça. Toi, t'as pas compris ça. Mais peut-être que tu sais, à ce moment-là, il a dit ça parce que si, parce que ça. On peut tout à fait parler de religion. On peut tout à fait parler de la condition de la femme. On peut parler de sexualité. On a parlé de tas de choses à partir d'Andromaque de Racine. Et des choses qui sont éminemment essentielles. Là, avec Rousseau sur scène, on parle de quoi ? On parle de la souveraineté du peuple, on parle de la notion de liberté, on parle de l'intérêt général, on parle de l'utilité publique. Moi, c'est vraiment une image qui me vient, parce que bon, c'est un auteur du siècle des Lumières, et aujourd'hui, on est en train d'éteindre les Lumières. Je comprends pas qu'on puisse voir ça de son bureau du 6e arrondissement ou de je ne sais pas où, décider de fermer les théâtres, décider que ça puisse être des lieux de contamination. Mais putain, c'est de la contamination culturelle, mais ouvrez-les en grand, c'est ici qu'on doit être. Le plus grand virus, là, c'est pas le Covid, hein. Le plus grand virus, là, c'est la méconnaissance. C'est ça, le plus grand virus. Plus vous êtes dans la merde, et plus il faut du beau, et plus il faut du gai, et plus il faut de la réflexion.
À Stein, la culture résiste au Covid, un reportage d'Anne Lamotte avec Emmanuel Faucillon à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invitée de grand reportage, la sociologue Marie-Hélène Baquet, spécialiste des questions de mixité sociale et de démocratie urbaine. Alors, Marie-Hélène Baquet, est-ce qu'Anne Lamotte aurait eu des témoignages analogues si elle était allée tourner dans d'autres villes de banlieue populaire, ou est-ce que cette ville de Stein fait vraiment exception ?
Alors, je pense qu'elle aurait pu avoir des témoignages qui convergent, mais il y a une grande diversité dans les villes populaires, et y compris dans les villes populaires de la Seine-Saint-Denis. Stein est quand même une ville qui a développé des pratiques culturelles très innovantes, et dont il me semble que ce qui est important, c'est le travail avec les habitants, parce que on peut dire que la question de la culture, notamment dans les villes communistes, dans les anciennes villes de la banlieue rouge, est quelque chose qui a été pris à bras le corps traditionnellement par ces municipalités, mais bien souvent dans une logique qui était une logique de permettre aux classes populaires d'accéder à la culture, à ce qu'on appelle la culture légitime. Là, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit la diversité des lieux culturels, et surtout ce travail qui consiste à aller vers les habitants et à construire avec eux leur rapport à la culture. Et ça, je pense que c'est quand même assez spécifique à Stein.
C'est-à-dire que ailleurs, on fait pour les habitants, mais pas forcément avec eux.
On fait souvent pour les habitants, oui, pour leur permettre d'accéder, voilà, d'aller au théâtre, d'aller aux voir des expositions, ce qui est très important. On fait moins souvent avec. Alors, ce sont des pratiques qui se développent quand même de plus en plus, hein, dans les quartiers populaires. Il y a de plus en plus des artistes qui vont travailler avec les habitants. Il y a des lieux culturels qui se créent avec les habitants, mais il arrive qu'il y ait une distance avec une partie de la population. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si en 2005, au moment des révoltes de banlieue, certains équipements culturels, en particulier les bibliothèques, ont brûlé. Le sociologue Denis Merklen avait travaillé là-dessus en s'interrogeant sur pourquoi est-ce que les bibliothèques ont brûlé pendant cette période-là, et il montrait justement que ces bibliothèques matérialisaient finalement les pouvoirs publics et une distance culturelle, un non-accès à la culture finalement. Elle matérialisait une culture dite légitime qui était quelquefois un peu distante par rapport aux habitants des quartiers.
Et est-ce que les bibliothèques pourraient brûler encore aujourd'hui dans ces banlieues ?
Oui, les bibliothèques pourraient brûler comme une série de services publics, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui en même temps témoigne parfois de leur éloignement vis-à-vis des populations et du fait que les populations y sont peu reconnues, qu'elles y ont finalement peu de place, et que tout le travail culturel est plutôt vu comme un travail d'éducation où on apporte la culture au peuple, mais où on ne s'appuie pas sur la culture qui émane du peuple. Cette double direction, cette double dynamique me semble très importante.
Anne Lamotte.
Oui, ce que j'ai trouvé très intéressant, notamment avec Marjorie Nakache et Zaya Ziwani Astin, c'est le fait qu'elles me disent quand on fait avec les gens, quand on fabrique, quand on crée avec les habitants, on est cantonné à du socio-culturel. Est-ce que vous l'avez remarqué aussi, vous, dans votre pratique de sociologue dans ces quartiers ? De dire, si on fait avec eux, justement, ce n'est plus de la culture.
Alors, je l'ai remarqué à la fois dans mon travail de chercheur, hein. Par exemple, en ce moment, je suis en train avec une équipe de chercheurs de terminer une recherche participative, qu'on a conduite sur 10 quartiers de l'Île-de-France, et donc on est en train de finir un livre coécrit avec des jeunes et avec des professionnels de la jeunesse, et tout simplement, on a beaucoup de mal à trouver un éditeur parce que on est dans une forme d'expression où on s'appuie sur la parole des jeunes qui apparaît moins légitime que une analyse qui viendrait tout simplement d'en haut. Donc effectivement, dans ce travail-là, on a aussi eu ce genre de réflexion qui nous interrogeait en disant, mais est-ce que vous faites de la recherche ou est-ce que vous faites de l'animation socioculturelle? Et puis en écoutant cette réflexion dans le reportage, ça m'a fait penser à un jeune ancien jeune comédien, Hakim, que j'ai rencontré à Aubervilliers lors de mon voyage sur le long de la ligne du RER B, et qui m'a raconté qu'au tout début des années 90, il participait à une groupe de théâtre qui s'appelait l'ABC Théâtre d'Aubervilliers. Ils avaient présenté une pièce au théâtre de la Commune. Il y avait un critique de Libération, du journal Libération, qui était venu les voir. Il a rendu l'article, il l'a pas trouvé, et finalement, il l'a pas trouvé parce que il n'était pas dans les pages culture, mais il était dans les pages société. Donc, je pense que ce constat-là qui est fait est un constat bien réel.
Alors, la plupart des interlocuteurs d'Anne sont eux-mêmes des enfants de la banlieue. Est-ce que ça veut dire que les autres acteurs culturels ont des a priori ou un peu peur de venir ?
C'est une vraie question. Je pense qu'il y a une série de d'artistes, hein, qui vont en banlieue, qui connaissent pas toujours le monde de la banlieue, qui ont quelquefois du mal à s'imprégner de ce monde, à s'y intégrer. Mais il y a quand même des artistes qui font ce travail-là. Mais je pense que des artistes qui viennent des quartiers populaires, sont porteurs sans doute d'une autre parole, et pour les habitants des quartiers populaires, d'une certaine façon, les représente dans le champ culturel.
Donc ils les perçoivent comme plus légitimes.
pas forcément comme plus légitimes, mais ils se perçoivent comme représentés par ces acteurs culturels. Ouais. Ce qui est pas exactement la même chose.
Et est-ce que dans le fait que d'autres artistes viennent plus rarement, est-ce qu'il y a aussi toujours ce problème d'enclavement des territoires?
Il y a un problème d'enclavement des territoires dans les représentations, c'est-à-dire que on considère ces territoires comme étant des territoires qui sont des territoires dangereux, qui sont des territoires où il se passerait peu de choses, où les gens n'auraient pas le niveau culturel leur permettant de débattre avec des artistes. Donc ces représentations là elles sont aujourd'hui encore prégnantes dans la société française et dans le contexte actuel, elles reviennent en force. Donc oui, ça renvoie à un enclavement, je dirais mental, un enclavement dans les représentations, qui s'accompagne parfois d'un enclavement urbain. C'est vrai qu'une ville comme Stein, par exemple, est peu accessible. Il y a les transports, il n'y a pas de gare à Stein, il n'y a pas de métro à Stein. Donc il y a aussi cet enclavement urbain, ce qui n'est pas le cas de toutes les banlieues populaires.
Anne?
Non, oui, sur les transports, par exemple, Kamel Warty du studio théâtre de Stein me disait qu'ils étaient obligés de mettre en place un système de navettes quand ils donnent des spectacles pour que les gens puissent rentrer chez eux à la fin du spectacle. Mais je voulais revenir sur cette idée de quand on n'est pas de Stein, est-ce qu'on va aller faire de la culture à Stein? Contraste, qui est le photographe qui a ouvert juste avant le premier confinement une galerie d'art, tâche d'art dans le centre de Stein, me disait, je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi vous êtes venu ici? Et il m'a dit, mais non, mais la vraie question, c'est pourquoi pas. Je suis un enfant de Stein, donc pour lui c'était tout à fait naturel, mais pourquoi les gens qui ne sont pas nés à Stein ne se posent pas la question de venir chez nous? C'est la question qui se posait.
Oui, mais on est notamment à Paris, hein, dans un système social et culturel qui est très hiérarchisé, et passer la barrière du périphérique est encore aujourd'hui une limite forte pour beaucoup de Parisiens qui ont l'impression qu'en passant la barrière du périphérique, ils vont dans un monde étranger, dangereux, qui n'est pas fait pour eux. Donc cette barrière là est encore malheureusement très très forte, et pourtant c'est bien dans ces quartiers populaires que naissent une série de formes culturelles qui sont des formes très très innovantes. Si on regarde par exemple ce que le rap a pu apporter à la danse contemporaine, le hip-hop a pu apporter à la danse contemporaine, c'est un véritable renouvellement de certaines formes. Donc il y a en même temps des hybridations, mais c'est vrai que il y a une grande frilosité de la part d'un certain nombre d'acteurs culturels.
Et ce que dit Marjorie Nakache, juste Aurélie, je rajoute ça, Marjorie Nakache du studio théâtre de Stein dit les médias parlent de Stein notamment quand on y brûle des voitures, mais pas quand on y brûle les planches.
Et ce qui est intéressant,
oui, tout à fait,
c'est on voit la volonté de lier les cultures. Hein, on l'entend dans le reportage d'Anne, l'association de musique classique avec éventuellement des danseurs de breakdance qui vont venir...
Ouais. Zaya Ziwani m'a expliqué ça. En effet, la chef d'orchestre qu'elle a fait danser sur scène accompagnée de son orchestre symphonique, hein, Divertimento, des danseurs de breakdance. Le breakdance qui, on le rappelle, fera son entrée comme discipline aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sachant qu'à Stein, c'est ce qu'elle me rappelait, elle me disait, on est à deux pas de Saint-Denis et de son Stade de France et qu'on associe à peu près toujours systématiquement les jeunes de banlieue au sport. Eh ben, son but à elle, c'est de montrer que ce sport, que ces nouvelles disciplines et que la culture donc urbaine et Bizet, Saint-Saëns ou Stravinsky, c'est pas incompatible et qu'au contraire, si on les mixe, regardez ce que ça donne comme c'est beau et regarde comme ça peut t'amener vers un domaine que t'as pas encore touché, que t'as pas encore approché.
Oui, et ça m'a ce qu'elle dit effectivement sur ces mélanges et m'a fait penser beaucoup à ce que les jeunes dans notre recherche nous ont dit sur la culture. On a été assez étonnés d'ailleurs de la part de la culture dans leur vie, dans leur représentation et de leur vision très décomplexée de la culture, où ils peuvent aborder différentes formes de culture, passer de l'une à l'autre sans précisément cette frontière entre culture légitime et culture populaire, et ces hybridations me semblent très 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 fortes en potentialité de rencontre et aussi en potentialité d'inventivité et de création.
Et quelles sont justement les pratiques culturelles que vous ont décrites les jeunes que vous avez rencontrés ?
Elles sont multiples. D'abord, ils utilisent le terme de la culture dans ses deux sens, c'est-à-dire dans le sens d'un ensemble de pratiques artistiques ou de loisirs, mais aussi dans le sens de valeurs, de rites ou de normes qui seraient partagées par un groupe, donc un sens plus sociologique. Ils ont des pratiques culturelles qui vont effectivement de la fréquentation de musées pour certains, à la danse pour d'autres, que ce soit le rap ou que ce soit d'autres formes de danse, des pratiques culturelles aussi qui passent beaucoup par les outils internet, notamment pour le cinéma, les séries qui font aussi partie des pratiques culturelles. Donc il y a un mélange et une diversité, et chacun va choisir à différents moments le type de culture dont il a envie, qu'il a envie de pratiquer ou qu'il a envie de consommer.
Alors en ce moment, la pratique culturelle peut se poursuivre sur Internet. En revanche, on ne peut pas se rassembler. Et évidemment, c'est compliqué. Alors on voit à Astin qu'il y a des acteurs culturels très engagés. Mais comme en ce moment, tout est suspendu, on peut se demander si ce temps du confinement est dangereux. Est-ce qu'il y a un risque que le lien se casse, que les habitants ne reviennent pas vers ces lieux culturels, Marie-Hélène Baquet ?
Alors le temps du confinement est dangereux. En même temps, on a vu pendant le premier confinement, j'ai été frappée par les formes de solidarité qui se sont développées dans les quartiers populaires. Alors on n'est pas dans la culture là, mais on est dans le lien, hein, par des échanges de nourriture, des distributions de biens de consommation, des fabrications de masques, des jeunes qui allaient aider des personnes âgées. Il y a eu une multiplicité d'initiatives qui montrent que le lien ne s'est pas cassé dans ces quartiers. Mais effectivement, on vit en ce moment, au-delà du confinement, une période qui me semble une période assez sombre, hein, qui a été aussi marquée par les attentats, qui est marquée aussi par toutes les réactions qui suivent les attentats. Et notamment les jeunes des quartiers populaires se sentent énormément montrés du doigt. La réponse publique est une réponse qui est finalement s'inscrit dans une logique de la peur et qui contribue plus à étouffer le débat public et à privilégier une réponse sécuritaire qu'à organiser la rencontre entre les citoyens. Je pense par exemple à la réaction de la ministre, la secrétaire d'État qui a participé à une réunion il n'y a pas longtemps de jeunes organisés par la Fédération des centres sociaux, jeunes qui avaient décidé de discuter de la question de la religion. Le débat a été très très compliqué et ça s'est suivi par une inspection de la Fédération des centres sociaux. Je pense aussi aux jeunes qui sont mis en examen. Donc on est dans une période où il y a énormément besoin de débat et où le confinement, dans le contexte actuel de réduction de liberté notamment, effectivement peut aujourd'hui casser des liens. Et dans ce contexte-là, la culture est essentielle. Parce que la culture, c'est aussi la possibilité de dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement, quelquefois. C'est la possibilité de se projeter dans un imaginaire. La possibilité de réfléchir ensemble. Et effectivement, le fait que les lieux culturels soient fermés risque de poser des problèmes dans ces territoires, comme dans d'autres, mais plus particulièrement dans ces territoires.
Vous dites que la culture est essentielle. Roselyne Bachelot n'était pas présente hein, aux côtés de Jean Castex à sa conférence de presse hier. La culture ne semble donc pas vraiment perçue aujourd'hui comme un produit de première nécessité. Est-ce que ça vous inquiète ?
Oui, ça m'inquiète parce que je pense qu'effectivement c'est un produit de première nécessité. Alors, on est dans une crise sanitaire et voilà, il y a aucun déni à avoir par rapport à cela, et je pense qu'il y a des mesures importantes à prendre par rapport à cela, mais je pense qu'en même temps il faut vraiment réfléchir à la façon dont on peut assurer dans la situation actuelle une place pour la culture, une place pour l'imaginaire, une place pour la rencontre. Tout cela me semble aujourd'hui tout à fait essentiel.
Alors ça n'est pas lié à la crise sanitaire, mais on voit qu'à Stein, il n'y a pas de librairie, pas de maison de la presse non plus. Est-ce que c'est simplement parce que le livre se trouve dans les médiathèques et que ça suffit? Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant ou est-ce que il faudrait quand même qu'il puisse y avoir des librairies dans toutes les villes?
Ben oui, bien sûr, je pense que ça serait qu'avoir une librairie dans toutes les villes, c'est un objectif important. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand même au cours de ces dernières années, on a vu fleurir beaucoup de petites librairies dans Paris, dans certaines villes de banlieue. Il y a une librairie à Saint-Denis, il y en a une à Aubervilliers, tout près de Stein. Mais je pense que c'est un effort qui est à développer, effort qui s'appuie quand même beaucoup sur la volonté des libraires, malheureusement, qui se trouvent souvent dans des situations très difficiles, parce que c'est compliqué d'ouvrir une librairie et de la faire tenir dans un territoire où les populations ont peu de moyens. Et le livre, ça reste quand même un produit qui est un produit relativement cher quand on touche le SMIC ou moins du SMIC. Mais je pense que cet objectif d'ouvrir des librairies est important et que ça demande aussi une politique publique d'aide à ce développement.
Des problèmes économiques, d'ailleurs, la crise, là, aujourd'hui, met en péril certains acteurs culturels. S'ils tombent, il y a un risque que certains territoires se transforment en désert culturel. Ou est-ce que vous pensez que là, les pouvoirs publics seront quand même toujours présents?
Ben, je ne sais pas, parce que ces territoires se sont déjà transformés pour partie en désert sanitaire. C'est ce qu'on voit, c'est ce que met bien en évidence la crise sanitaire avec ses inégalités. Je ne suis pas sûre que les pouvoirs publics engagent une vraie politique culturelle dans ces territoires. Pour le moment, les politiques culturelles reposent pas mal sur les municipalités, en Seine-Saint-Denis sur le département qui a, par exemple, peut jouer un rôle important dans le développement des médiathèques et des bibliothèques. Il faudrait des moyens sans doute plus importants dans ces territoires qui sont particulièrement défavorisés.
C'est aussi de la population que peut venir la dynamique. Les associations locales entretiennent énormément le tissu social. Est-ce que c'est aussi le cas pour la culture, Marie-Hélène Baquet?
Oui, c'est aussi le cas pour la culture. Il y a beaucoup d'initiatives issues des habitants, de petits groupes. Je pense chez les jeunes, par exemple, des groupes de danseurs qui existent. Et il me semble que une politique culturelle, a tout intérêt à s'appuyer sur ces dynamiques, à les reconnaître, à les aider à prendre forme, parce que c'est dans ces dynamique aussi que se construit le lien, que se construit la rencontre, et c'est ces dynamiques qui permettront de faire émerger aussi des acteurs culturels venant de ces quartiers populaires, parce que il existe quand même encore des plafonds de verre importants. Je pense à un film qui a beaucoup circulé sur internet d'Alain Etoundi qui s'appelle Allez tous vous faire enfilmer, c'est un jeune réalisateur qui n'a pas réussi à avoir les moyens de percer, à avoir les avances sur recettes pour réaliser ses films, et qui dénonce la difficulté pour des jeunes, notamment des jeunes appartenant aux minorités racialisées, d'accéder à la diffusion, d'accéder aux moyens de production. Et ça, c'est une réalité, malheureusement, aujourd'hui, du monde culturel.
Anne Lamotte.
Non, je voulais juste ajouter que à Stein, il y a aussi ce lien qui est hyper fort parce que c'est une petite ville, à mon avis, moins de 40 000 habitants, et que il le décrit vraiment comme un village, et que dès que je rencontrais un acteur culturel à Stein, il me disait mais tu devrais aller interroger un tel ou une telle, etc. Et quand je rencontrais une telle, eh bien je me rendais compte qu'il avait déjà travaillé avec la personne que j'allais rencontrer. Roche Diaouès, par exemple. Qu'on entend à la fin du reportage, qui est journaliste à Stein Actu, le journal municipal, eh bien, par exemple, il a travaillé sur une des vidéos pour le studio théâtre il n'y a pas si longtemps. En fait, tout le monde se connaît, c'est comme un petit microcosme, j'ai l'impression, Stein, et c'est aussi pour ça que la culture arrive à y être aussi vivante.
Oui, je crois que vous avez raison. Il y a une dimension communautaire, et moi, dans la notion de communauté, je mets une dimension positive. C'est-à-dire, je n'accroche pas communauté avec communautarisme. Il y a une dimension communautaire, collective, un ancrage local qui est très important, à la fois dans les politiques culturelles et d'ailleurs dans les politiques sociales, et qui effectivement permet de créer des réseaux, de développer ces liens qui sont essentiels.
Et un passif aussi. Je pense, là, Marjorie Nakache me disait qu'elle avait vu des générations entières passer au théâtre et que du coup, toutes ces générations-là avaient des souvenirs culturels à partager, avaient du récit en fait, des histoires à raconter culturelles dans des lieux de Stein.
Oui, tout à fait, qui sont leurs lieux, voilà, que la population de Stein s'est appropriée. Alors bon, sans doute pas toute la population de Stein, il y a bien sûr encore des enjeux d'accès à ces équipements, mais effectivement le vous avez raison, le fait que ce soit une petite ville fait ce lien commun.
Merci beaucoup Marie-Hélène Baquet. À Stein, la culture résiste au Covid. Le grand reportage de cette semaine était signé Anne Lamotte, réalisation Emmanuel Faucillon, avec Valentin Bobinet à la technique. Merci bien sûr, comme chaque semaine, à l'équipe de la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.